L'unité de l'Église, l'unité des chrétiens. Et vous vous souvenez que dans cette première partie, pour ceux qui étaient là, nous avons regardé le troisième texte, parce qu'il y a trois reprises de l'unité dans cet épître aux Éphésiens. On a pris ensemble le troisième texte au chapitre 4, c'est ce texte-là, qui est la deuxième partie de l'épître aux Éphésiens, c'est-à-dire la partie pratique, où l'apôtre Paul exhorte les chrétiens à avoir une conduite, un comportement qui est en phase, bien sûr, avec leur expérience spirituelle, en accord avec la volonté de Dieu, avec l'éthique chrétienne, avec la loi de Dieu. Et il commence cette deuxième partie au chapitre 4 par ces mots: « Je vous en supplie, donc moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur », donc il était dans une prison quand il a écrit, à cause de sa foi, quand il a écrit cette lettre, « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une manière digne de cet appel, soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour, efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. » L'apôtre Paul invite ses chrétiens à marcher. C'est les deux mots qui peuvent résumer l'épître aux Éphésiens. La première partie, c'est « appeler ». Il parle de cet appel qu'ils ont reçu pour, en entendant l'Évangile, et qui les a amenés à se tourner vers Dieu, à mettre leur confiance, leur foi en Dieu, pour recevoir le salut de Dieu, donc le premier. La première partie peut être résumée par le verbe « appeler » et la deuxième partie par le verbe « marcher », celui qu'il utilise ici lorsqu'il les invite à marcher d'une manière digne de l'appel, de la vocation qu'ils ont reçue, du salut qu'ils ont reçu par grâce, ayant été acceptés par Christ et cette œuvre que Dieu a faite dans leur cœur, qu'il décrit, qu'il rappelle dans la première partie. Ce changement intérieur a produit des fruits, bien évidemment, des fruits qui se voient, qui s'entendent, lorsqu'on voit ces chrétiens vivre, donc marcher dans leur vie chrétienne, et il va parler de ces fruits, de ces comportements qui ont changé, ou qui sont appelés à changer dans cette deuxième partie, et il va notamment parler du comportement qu'on peut avoir dans le cadre du couple. Donc il va s'adresser aux maris et aux femmes, c'est là que il va adresser ses paroles, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », par exemple. Il va s'adresser aussi à la famille, comportement des enfants par rapport aux parents, les parents par rapport aux enfants, comportement dans la vie professionnelle aussi. Enfin, il va s'adresser à différents secteurs, différents domaines où nous sommes appelés à manifester ces fruits de cette œuvre de Dieu en nous. Mais le premier thème qu'il choisit parmi tous ces thèmes qu'il va développé dans la deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens, c'est le thème de l'unité. C'est-à-dire, cette œuvre que Dieu a faite, on a vu ensemble que l'unité, c'est un cadeau de Dieu, en fait. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas à nous de fabriquer ou de produire l'unité, c'est quelque chose que Dieu nous donne, que l'on reçoit de la part de Dieu. Et ce que Paul demande, puisqu'il y a quelque chose que nous sommes appelés à faire, c'est à maintenir cette unité, à la préserver, à la garder, à faire tout ce qui est en notre... Là, dans les moyens que Dieu nous a donnés, ils sont indiqués ici, l'humilité, la douceur, la patience, l'endurance, l'amour, avec tous ces moyens-là, ces ingrédients, normalement, on doit être capable de maintenir cette unité. Donc voilà brièvement ce que nous avons vu dans cette première partie, et je voudrais revenir ce matin sur ce thème, à partir de ce que Paul nous dit toujours sur l'unité dans cette lettre aux Éphésiens, mais à partir du deuxième texte, ce deuxième texte que nous allons lire maintenant, au chapitre 2, un texte dans lequel il parle de cette unité, à la fin du chapitre 2, il écrit ceci: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes des concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » L'apôtre Paul, avant d'écrire ces paroles, il a écrit au chapitre 1er une prière qu'il adressait régulièrement à Dieu pour ses chrétiens. Cette prière, je pense que beaucoup d'entre vous, vous la connaissez bien. J'ai eu l'occasion de la voir avec vous il y a quelques mois de cela. Cette prière dans laquelle Paul demande à Dieu d'illuminer les yeux des cœurs de ses chrétiens afin qu'ils voient l'espérance qui est attachée à leur appel, une formidable espérance pour notre avenir, afin qu'ils voient aussi le glorieux héritage qui est le nôtre en tant que chrétiens. Nous sommes co-héritiers avec Christ, comme Paul le dira ailleurs, et qu'ils voient aussi la grandeur surabondante de sa puissance pour ceux qui croient. Qu'ils voient, qu'ils réalisent l'immensité de la puissance de Dieu, et cette puissance de Dieu, l'apôtre Paul va en parler au chapitre qui suit, donc au chapitre 2, il va en parler en revenant sur le salut qu'ils avaient reçu en Christ, ce salut qui les a fait passer de la mort à la vie, comme il le dira dans ce texte, qui a été pour eux une véritable résurrection spirituelle. Et là, quand on parle de résurrection, il faut parler de puissance, bien sûr. La plus grande puissance que Dieu a pu manifester durant le ministère de Jésus, c'est lorsqu'il a ressuscité un certain nombre de personnes, trois connues, et notamment Lazare. Il fallait toute la puissance de Dieu pour cela, et cette puissance, elle est aussi nécessaire pour ce changement intérieur, pour passer de la mort à la vie. Donc il parle de la puissance de Dieu dans ce chapitre 2, dans le salut qu'il nous apporte, l'œuvre de Dieu en nous au moment de notre conversion, et il parle aussi de la puissance de Dieu qui est révélée dans le rassemblement de tous ceux qui sont en Christ, qui ont été sauvés par lui. Et là, il prend l'exemple notamment de deux catégories de personnes qui ne s'entendaient pas, qui ne se fréquentaient pas, qui ne mangeaient jamais ensemble, par exemple, et qui souvent se battaient les uns contre les autres. C'était les Juifs et les non-Juifs, ou les païens. Et ces deux catégories de personnes qui étaient séparées, continuellement séparées au travers de Christ, dans l'église primitive, dans l'église d'Éphèse notamment, ou à Jérusalem, elles étaient réunies, rassemblées, et non plus séparées comme elles l'ont été pendant des siècles, mais vraiment réunies au travers de Christ. Et Paul termine à ce moment-là ce chapitre 2 en ayant développé, et on reviendra tout à l'heure pourquoi et comment cette œuvre a été faite, mais Paul va terminer ce chapitre par trois images pour décrire la nature de cette unité, l'unité des chrétiens. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi elle consiste-t-elle? Quelles sont ses caractéristiques? Ses caractéristiques. Et comme c'est quelque chose de nouveau, bien sûr, et surtout comme c'est quelque chose de riche, de très riche, l'apôtre Paul ne peut pas se contenter de donner une image pour nous aider à comprendre ce que c'est. Il lui faut pas moins de trois images, et il aurait pu utiliser d'autres, il en a utilisé d'autres par ailleurs, dans d'autres lettres, mais ici il va utiliser trois images, trois métaphores pour parler, pour nous aider à comprendre ce qu'est cette unité, quelle est vraiment la nature de cette unité. Et je vous propose de voir ensemble, de regarder ensemble de près, au travers de ces images que Paul nous donne, de mieux comprendre ce qu'est cette unité qui est celle des chrétiens, qui est le fruit de l'œuvre de Christ. Et il parle donc dans ce texte, trois images. L'Église est comparée à un royaume, ce qui sera donc notre plan ce matin. Elle est comparée aussi à une famille, et plus surprenant, elle est comparée à un temple. Voilà les trois images que nous trouvons à la fin de ce chapitre 2, par lesquelles Paul nous aide à comprendre ce qu'est vraiment cette unité. Qu'est-ce qui nous unit en Christ? Qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble? Quel genre de lien nous avons ensemble? Alors il prend des images, des choses que nous connaissons bien, comme un royaume, ou une nation, un peuple, un pays, ou encore une image, encore une famille, pardon, l'image de la famille, ou encore lorsqu'il parle d'un temple, d'une habitation, l'habitation de Dieu notamment. Et on va essayer de voir ensemble ce que Paul veut nous amener à saisir au travers de ces images sur l'unité, les liens qui sont entre nous, en fait. Il parle, et la première image, c'est celle du royaume. À l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas des républiques comme la République française, on n'était pas en démocratie, on était dans le cadre de royaume ou d'empire, comme l'Empire romain, de royaume, bien sûr, avec une autorité royale, un roi, une reine, des autorités qui étaient là sur un territoire. Et cette image-là, elle revient souvent dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, et dans la bouche de Jésus, parce que ce que Jésus dira très souvent à ses disciples ou à ses foules qu'il enseignera, il leur parlera du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux. C'est deux expressions qu'on retrouve très souvent dans les évangiles, lorsqu'il va appeler des hommes et des femmes à venir, à entrer dans ce royaume, lorsqu'il dit qu'il est venu établir le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est là et qu'il vient, et lorsqu'il est venu décrire, ou lorsqu'il a décrit la vie de ses disciples, notamment dans le sermon sur la montagne, ceux qui appartiennent à ce royaume, ceux qui font partie de ce royaume. Bien évidemment, quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi, d'un monarque, une autorité qui appelle bien évidemment tous les sujets à être soumis, à obéir aux lois dans ce royaume qui sont promulguées par l'autorité royale. Il y a un rapport ainsi entre des sujets et un monarque, une autorité royale. Appel à soumission, appel à obéissance, à faire ce qui nous est demandé de faire. Et bien évidemment, cette image-là, elle rappelle, bien sûr, le rapport, le lien que nous, en tant que chrétiens, nous avons avec Christ, qui est là comme un roi. On a chanté et on s'est adressé à lui ce matin au travers d'un cantique comme étant la majesté suprême. Il est là et digne d'être adoré, digne d'être obéi. C'est lui auquel on se soumet. Donc, il y a ce rapport-là dans l'image de la citoyenneté. C'est ce que Paul dit, à partir du moment où nous faisons partie de ce royaume, nous sommes, nous les uns et les autres, des concitoyens. Nous faisons partie d'une même nation, en fait. Paul parlera aux Philippiens, notamment, de cette citoyenneté que nous avons dans les cieux. Nous avons une citoyenneté de plus. Peut-être que vous en avez tous une, au moins. Peut-être certains en ont deux, des fois trois. Mais on en a une de plus. La citoyenneté céleste, celle qui nous est donnée au travers de Christ et qui fait que nous avons et nous devons développer, bien évidemment, ce qu'on peut appeler un sentiment d'appartenance à un même peuple, au peuple de Dieu, et avec tous ceux qui ont fait partie de ce peuple de Dieu à travers l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Paul parle ici des concitoyens des saints, dans cette version. D'autres versions parlent de membres du peuple de Dieu, par exemple. Là, c'est le mot, en fait, dans le grec, c'est le mot « saint » qui est utilisé. Alors, effectivement, pour beaucoup de gens aujourd'hui, les saints, ce sont ceux qui font partie d'un calendrier, peut-être. Ils ont quelque chose de particulier, font partie d'une élite chrétienne. Pour Paul, à cette époque, les saints, c'était tous les chrétiens, en fait. Quel qu'il soit, à partir du moment où il faisait partie du peuple de Dieu, il faisait partie des saints. Vous pouvez vous considérer comme des saints. Vous pouvez vous appeler, moi je peux m'appeler Saint Daniel, moi c'est, ça ne me dérange pas, je suis comme vous, vous êtes tous et nous sommes tous des saints. Et nous devons considérer les autres concitoyens, ceux qui font partie de ce même peuple, comme étant aussi des saints en Christ. Alors il y en a dans ce peuple, comme dans toute nation, tout peuple, il y a ceux qui sont très connus, et puis il y a tous les autres qui sont inconnus. Il y a des gens célèbres dans toutes les nations, et c'est vrai aussi pour ce qui est du peuple de Dieu, il y en a quelques-uns qui sont connus, quelques-uns qui sont célèbres, et puis la grande masse des enfants de Dieu à travers l'histoire, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, eh bien, le plus grand nombre de ces gens ne sont pas connus de Dieu, bien évidemment, mais pas connus du reste. Mais Dieu les connaît, justement. Et c'est ça qui est important. Il y a ce texte dans le psaume 87 qui nous dit au verset 6, « Le Seigneur inscrit dans le livre des peuples, voici ce qu'il écrit, à cet endroit est né tel homme. » Voilà, il sait où on est. Pas seulement sur le plan humain, terrestre, mais sur le plan spirituel. Vous savez, chaque pays a des hommes ou des femmes célèbres dans l'histoire. Chaque nation, hein, que ce soit nation française ou anglaise, allemande ou autre. Si vous regardez un peu l'histoire, vous voyez des gens qui ont marqué, soit dans la musique, dans l'art en général, dans la philosophie, dans les sciences, dans la politique, enfin, peu importe. Chaque nation a des hommes voilà, qui ont marqué l'histoire de cette nation, et c'est la même chose avec le peuple de Dieu, en fait. On a des noms célèbres. Hein. Pensez à Abraham, c'est pas mal. Hein. Faire partie d'être concitoyen d'un peuple dans lequel vous avez quelqu'un comme Abraham. Hein. Moïse, quelqu'un l'a cité, je crois. David, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Peut-être qu'il y en a un qui nous appelle, là, je ne sais pas. C'est pas grave. Il y en a beaucoup comme ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Hein. On est avec des hommes comme Pierre, les premiers apôtres, Jacques, Jean, l'apôtre Paul, bien évidemment, aussi, sont des noms célèbres. Et puis après, dans l'histoire de l'Église, Augustin, Saint Augustin, comme parfois on l'appelle aussi, Luther, John Knox aussi. Il y en a des quantités, en fait. La particularité de cette citoyenneté céleste à laquelle nous appartenons, c'est qu'elle transcende toutes les autres nationalités, parce que ça n'empêche pas qu'on reste français si on est français, on est congolais si on est congolais, ou gabonais si on est gabonais, si on vient du Gabon. Donc on a cette nationalité, ou double nationalité, mais cette nationalité céleste, elle transcende les autres, elle est vraiment au-dessus des autres, en fait. C'est la raison pour laquelle il pouvait y avoir l'unité entre ces juifs et ces non-juifs, en fait. C'est parce que cette nouvelle citoyenneté était au-dessus et avait rendu un peu caduques, on peut dire, les différends, les combats, les disputes qu'il pouvait y avoir entre les juifs et les non-juifs ou les païens. Et ils se retrouvaient donc membres de cette même nation, de ce même peuple, fait partie de cette citoyenneté céleste ou spirituelle qui est rassemblée autour de Christ et qui détruit à ce moment-là les murs de séparation que les nationalismes hein, exacerbés, c'est bien des patriotes bien évidemment, on est attaché à cela et vous allez voir que ça va se manifester dans quelques jours à la faveur de la Coupe du Monde, hein. Chacun va défendre son équipe liée à sa nation. Ça, c'est pas un problème, mais quand on tombe dans un nationalisme exacerbé, comme on le voit notamment dans certains partis politiques, ça, c'est un peu effrayant. Là, ça fait peur. Dans le rejet de l'autre, rejet du migrant, par exemple, de l'étranger, quelque chose avec lequel on ne peut pas être à l'aise, bien évidemment. Parce que nous, au travers de la citoyenneté céleste, on est appelé à accueillir tout le monde, sans aucune différence, et quand ce sont des frères et des sœurs qui appartiennent à ces autres nations, on fait partie de ce même peuple à ce moment-là. Et ça, c'est le premier lien que Paul évoque dans à la fin de ce chapitre 2, lorsqu'il parle de faire partie ou d'être des concitoyens des saints. La deuxième image, une image que l'on connaît bien aussi, c'est l'image de la famille. Il parle de la maison. La maison dans le sens de famille, de ceux qui habitent dans cette maison. Et là, on sent qu'il y a quelque chose de plus fort et de plus intense avec l'image de la citoyenneté. Que ce soit entre le chef et le peuple, ou le roi et le peuple, il y a une relation bien évidemment, mais il y a une relation assez distante aussi. Alors que dans la famille, s'il peut y avoir une autorité, l'autorité paternelle, l'autorité des parents, par rapport aux enfants, il y a quelque chose de plus intense. Il y a des liens qui sont encore plus forts que ceux qui peuvent être les nôtres lorsqu'on fait partie d'un peuple ou d'une nation. Là, dans le cadre de la famille, on voit bien que c'est quelque chose de plus fort. Les liens du sang qui nous unissent. Et c'est une image, vous le savez, qui revient très souvent dans le Nouveau Testament. Jésus va surprendre certainement ses disciples lorsqu'il va leur dire quand vous prierez, commencez en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Nous, ça nous paraît banal, ça. Nous, on prie tout le temps comme ça. Mais mettez-vous à la place des disciples. Dans le judaïsme, Dieu n'était pas présenté comme un Père individuel. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est question de Dieu comme Père, mais Père d'une nation, Père du peuple d'Israël. Pas sur le plan individuel, on ne s'adressait pas à Dieu comme cela. Et Jésus, lui, va beaucoup plus loin lorsqu'il dit à ses disciples, « Mais si, vous, maintenant vous pouvez prier et être dans cette relation filiale avec Dieu lui-même et le considérer comme Père, et vous pouvez l'appeler Père. » Il va parler de ce Père, justement, dans le Sermon sur la montagne, parce que c'est là qu'il va donner ce modèle de prière que nous connaissons bien, qu'on appelle notre Père, mais un peu plus loin, il va les exhorter à ne pas s'inquiéter. Vous savez ce qu'il leur dira ? Ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtus. Et qu'est-ce qu'il leur dit pour qu'ils ne s'inquiètent pas ? Il leur dit, parce que votre Père céleste, c'est lui qui pourvoit. Vous voyez ? Il leur parle, il leur dit, mais si vous voulez être dégagé de ces craintes qui peuvent être les vôtres par rapport aux choses matérielles, aux choses de la vie, qui peuvent être légitimes même, lorsqu'on n'a pas assez à manger, lorsqu'on manque de quelque chose, il dit, souvenez-vous à ce moment-là, non seulement que Dieu est créateur et celui qui peut faire toutes choses, mais souvenez-vous surtout que là, Dieu est votre Père céleste. C'est encore cette image qui est ressortie tout à l'heure dans la prophétie de Valérie, qui parlait de Dieu comme une mère, là. Le comportement qu'elle peut avoir auprès d'un enfant. Et ça, c'est cette relation-là que l'Évangile met en évidence, que Jésus lui-même va mettre en évidence. C'est Jésus qui dira à Marie, après sa résurrection, ses paroles magnifiques, il dira « Va vers mes frères ». C'est Jésus qui parle. « Va vers mes frères, mes disciples. Et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et mon Dieu, celui qui est votre Père et votre Dieu. » Parole forte. Paul parlera un peu plus loin dans l'Épître aux Romains aux chrétiens de l'Église de Rome et il leur dira, mais rappelez-vous que vous avez reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». Vous connaissez l'histoire de la parabole, bien sûr, la plus connue de Jésus, la parabole du fils prodigue, qui raconte quoi ? L'histoire d'un différend entre un père et un fils, et comment le père va accueillir le fils lorsqu'il va revenir à la maison. Tout cela, c'était intentionnel de la part de Jésus, pour montrer qu'on est et on peut rentrer dans cette relation avec lui. Et il le dira dans ce chapitre 2, hein, dans l'Épître aux Éphésiens, on a lu à partir du verset 19, mais si on lit le verset 18, il dira que nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il parle du Père encore. C'est le privilège du Fils. Même si le Père est une autorité, même si le Père est un roi ou un président de la République, ou président par exemple des États-Unis, vous avez certainement vu déjà cette image. Vous voyez, on est dans le bureau ovale. C'est quand même un lieu du pouvoir, là, vous voyez ce que je veux dire. C'est là où on prend de grandes décisions. Hein. Et là, qui c'est que vous avez caché en dessous le bureau? C'était pratique parce qu'il y avait une petite porte, vous voyez. Il pouvait l'ouvrir, il pouvait sortir par là. Et au-dessus, vous avez le président John Fitzgerald Kennedy, qui est là à son bureau. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire comme décret, comme décision nationale, vous voyez. Et puis, à ses pieds, il y a son fils. Pourquoi il est là, lui ? Ben parce que c'est le fils. C'est le privilège du fils. Les autres, quand ils veulent aller au bureau ovale, ils ne rentrent pas comme ça. Hein. Ils doivent demander l'autorisation, il y a tout un protocole. C'est compliqué. Lui, non. Il n'a même pas frappé. Il ouvre la porte et il va dans les bras de son père et puis il reste là. C'est John Fitzgerald Kennedy aussi, junior. Hein, c'est John, qui est décédé depuis lui, hein, et est mort dans un accident d'avion. Là, on est dans le bureau ovale, je crois que c'est le 19 octobre 1963. Et un peu plus, un mois après, le 22 novembre 1963, c'est ce jour-là qu'il a été assassiné. On est un mois avant. Je ne sais pas à ce moment-là. On est un mois avant sa mort. Mais vous voyez le privilège d'un fils. Pourtant, c'est un chef d'État, première puissance au monde. Mais lui, il a accès. C'est ce que Jésus a voulu nous dire. Il reste un roi. Il reste l'autorité suprême qui demande bien évidemment respect, révérence. Mais en même temps, il y a une liberté. C'est pour cela que Paul dira donc aux Éphésiens, nous avons accès auprès du Père, un accès tellement libre auprès de Dieu. Quand on sait cela, on peut s'approcher dans la prière comme nous le faisons. On a le droit de le faire. Parfois, il y a des gens qui sont choqués, vous savez. La manière dont on s'approche de Dieu, la manière dont on parle à Dieu. Je me souviens toujours de cette histoire, c'était il y a bien des années à Saumur. J'avais fait une réunion, ça devait être en semaine ou dimanche, peu importe. Et il y avait un jeune homme qui était là, catholique, très pratiquant. Il est venu, après la réunion, il est venu me voir et m'a remercié pour la parole et pour le commentaire que j'avais fait d'un texte. Mais il a dit une chose que je n'ai pas pu supporter. C'est votre manière de prier. Ah bon? Je lui ai dit, ah bon? Ah, vous êtes trop libre. Vous vous rendez compte comment vous parlez à Dieu? Ah, je dis oui, peut-être parce que vous ne connaissez pas Dieu comme moi je le connais. La différence de vous, c'est que moi je le connais comme Père. Et le privilège d'un fils, c'est de pouvoir s'approcher librement et de pouvoir lui dire les choses. Et vous le découvrez dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, bien évidemment. Ça, c'est le privilège qui nous est donné. Vous voyez, ce fils de Kennedy, il n'avait pas à suivre le protocole. Il avait cette liberté. L'image de la famille nous dit quelque chose de la relation entre Dieu et nous, bien sûr, le lien qui nous unit. C'est pour cela que Jésus prend cette image, parce qu'elle nous parle. Nous, on vit dans une famille. Nous, on a eu aussi un père, une mère, où on est soi-même père et mère pour la plupart d'entre nous, et on sait ce que ça veut dire. Elle nous dit aussi quelque chose, non seulement entre notre relation entre Dieu et nous, mais entre les disciples, les membres de cette famille, entre les chrétiens, ceux qu'on appelle les frères et les sœurs. L'apôtre Paul parle souvent de ses frères. Il n'hésite pas. À chaque fois qu'il parle des frères, il inclut les sœurs, mais il ne le disait pas à l'époque. Aujourd'hui, on le dit. Ce sont des liens privilégiés dans une famille. Irréversibles aussi. On reste, vous savez, frères et sœurs, quand on est là, on a ces liens du sang, membres de la même famille, même si on ne s'entend plus. Et c'est parfois le cas. Hein. Quand il y a des disputes entre les frères et les sœurs, quand il y a des différends, il y en a qui ne se voient plus et qui ne se parlent plus, il n'empêche qu'ils restent frères et sœurs. Ils ne peuvent pas changer cela, en fait. Et dans une famille qui s'entend, une famille humaine, comme c'est certainement le cas, j'espère en tout cas, pour la plupart d'entre vous, pour tous, une famille qui est en paix, une famille qui s'entend, vous savez que le premier réflexe qui est le nôtre, lorsque un des membres de la famille ne va pas bien, est dans le besoin. Il y a ce réflexe de solidarité, de protection à l'égard du plus faible. C'est viscéral. C'est ce qui marque, bien sûr, les liens d'une famille, les liens du sang qui sont là. On a vécu cela il y a presque 2 ans, 1 an et demi de cela, à la Foulée pour la vie, lorsqu'on a accueilli toute une famille. Ils étaient entre 30 et 40. Il y avait un membre de cette famille, Nathalie, qui est décédée d'un cancer quelques mois auparavant. Et ils avaient entendu parler de la Foulée pour la vie, ce que l'on met en place comme action humanitaire pour aider la lutte contre le cancer. Et ils sont tous venus, enfin une grande partie de cette famille. est venue à ce moment-là. Et c'était touchant, c'était émouvant de voir ces gens, ils avaient tous mis un t-shirt avec le nom de cet être cher qui avait disparu. Et puis ils ont passé cette journée ensemble, de solidarité, ensemble. Ils se sont réunis. Il y a peut-être des différends hein, dans cette famille, il y avait peut-être des histoires aussi, probablement. Et tout cela s'est passé par-dessus, pour se réunir à ce moment-là, parce que l'un des leurs avait été touché. Il y en avait un qui était en deuil, avec des enfants. Ça, c'est le privilège de la famille. C'est le privilège de l'Église lorsqu'elle est une famille. Ça veut dire qu'on est des frères et sœurs et on le reste. Quoi qu'il arrive, on le restera. On sera toujours des frères et des sœurs. Il faut se considérer comme tels. Et on voit aussi cette solidarité s'engager. Dès qu'il y en a un qui souffre, tous les autres membres souffrent. Bon, quand il y en a un qui se réjouit, on se réjouit aussi. Ça, c'est pour l'image de la famille, on pourrait développer, mais je vais passer à la troisième image, qui est un peu plus surprenante. C'est l'image du temple. Peut-être qu'on ne s'attend pas à cette image-là. Une image d'un même peuple, d'une même nation, d'être concitoyen. L'image d'une famille, tout cela, on comprend ce que cela peut vouloir dire quand on parle de l'Église ou des chrétiens. Mais l'image du temple, elle est quand même assez particulière. L'image de la famille, on sent que c'est quelque chose de plus intense. Les liens sont plus intenses que ceux d'une nation ou des concitoyens. Dans l'unité. Mais l'image du temple, on passe d'une image, celle de la famille ou de la nation, qui est une image personnelle, à celle du temple, d'une habitation, qui devient impersonnelle. Les deux autres images, elles sont humaines, sont des hommes et des femmes qui sont là, partie prenante. Et puis la troisième, c'est matériel. On se dit, mais Paul, est-ce qu'il voulait aller un peu plus haut ou est-ce qu'il est redescendu là? Alors, il y a des commentateurs qui discutent là-dessus. Mais d'une manière générale, ils sont quand même d'accord pour dire que cette image-là, quand on la regarde de près, elle renforce encore l'idée du lien qu'il peut y avoir dans le cadre de l'Église. Les deux premières images, celle de la nation, du royaume, Dieu est le roi et le peuple est là appelé à se soumettre et à obéir en tant que sujet. Ils sont là pour respecter les lois qui sont données dans ce royaume. C'est l'autorité suprême. L'image de la famille, de Dieu qui est un père, même si c'est toujours une autorité, cette image, elle associe aussi une intimité dans la relation avec cette autorité, comme on l'a vu avec la photo dans le bureau ovale. Il y a une liberté là, une intimité, une liberté d'accès dans la présence de cette autorité, une proximité. Mais quand Paul nous parle du temple, il nous parle de Dieu à ce moment-là qui habite quelque part en particulier. Ce n'est pas la première fois, bien sûr, que cette image est utilisée dans le Nouveau Testament. Je pense que la première fois, c'est lorsque Jésus parlera pour la première fois de l'Église. Vous savez, dans Matthieu 16, lorsqu'il posera la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et il y a la réponse magnifique de Pierre, et Jésus dira à ce moment-là à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Vous voyez, c'est la première fois que Jésus va comparer son peuple, le peuple des disciples, à un bâtiment, à une construction. C'est quelque chose qui est renforcé, bien sûr, un peu plus tard, le jour de la Pentecôte. On a un week-end de Pentecôte, on peut parler un peu de Pentecôte. Hein, qui vient renforcer la présence de Dieu par la présence du Saint-Esprit. Cette puissance de Dieu qui nous donne la plénitude de l'Esprit pour être ses témoins, pour entrer dans son service. Et Paul désirait tellement que les chrétiens que nous sommes prennent conscience
de ce que ça veut dire d'être l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu, la maison de Dieu, le temple de Dieu, le sanctuaire. Dieu, vous le savez, c'est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont présentes dans, à la fin de ce chapitre. Il parle à la fois de Dieu comme Père, il parle du Saint-Esprit. Regardez de près, il parle de Jésus aussi. On voit les trois personnes là présentes, ce qu'on appelle la Trinité. C'est quelque chose de particulier, bien évidemment, de difficilement compréhensible aussi, sur le plan rationnel. Mais vous avez deux grandes catégories de religions. Vous avez les religions qu'on appelle polythéistes et monothéistes. Polythéistes, on adore, on reconnaît une quantité de dieux, de personnes différentes, personnes divines différentes, parfois avec des volontés différentes, parfois même qui se bagarrent entre elles, qui se font la guerre. En fait, vous avez la diversité dans ces religions polythéistes, mais vous n'avez pas l'unité. Vous avez la diversité, mais pas l'unité. Puis vous avez les religions monothéistes, comme l'islam, par exemple. Vous avez un seul Dieu, là. Un seul Dieu, une seule personne, seul de toute éternité. Il a créé des anges, créé des êtres humains, pour un début de relation, mais ce qui vient en premier, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'autorité. Et là, dans ces catégories de monothéisme, vous avez l'unité, mais vous n'avez pas de diversité. Ah, vous avez l'unité, hein, il y a un seul, il n'y a pas d'autre. Avec la Bible, il y a ce monothéisme, bien sûr, mais qui va associer à la fois l'unité et la diversité. Vous avez trois personnes, mais vous êtes toujours un seul Dieu. Trois personnes qui parlent de diversité, mais un Dieu qui parle d'unité, en fait. Une seule nature, une seule volonté, un seul objectif, une même essence. Et dans cette relation d'amour. Et lorsque Dieu crée un être, comme la Bible nous dit, à son image, à sa ressemblance, c'est dans le but de partager, en fait. Quelque chose qui existe depuis toute éternité en Dieu, c'est-à-dire la relation, l'amour entre ces trois êtres sans faille, parfaits. Et Dieu agrandit sa famille, on peut dire, avec des êtres qui vont pouvoir aussi avoir cette relation d'amour avec lui, cette relation intime qui existe dans le cadre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va s'agrandir, Dieu va agrandir le cercle de cette communion avec les enfants de Dieu qui vont entrer dans cette relation intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qui va créer, bien sûr, une relation intime entre les enfants de Dieu. Et ça, c'est ce qui est parfaitement illustré avec l'image du temple. La particularité du temple, Il ne faut pas voir les constructions modernes hein, qu'on a aujourd'hui avec des briques et des parpaings. Vous savez, on produit en masse des pierres complètement identiques. Hein, puis on les met les unes sur les autres, et on fait des murs et on fait des maisons avec ça. À l'époque, ce n'était pas ça. Hein, et surtout pas avec le temple, bien évidemment. Chaque pierre était unique, particulière. Il y avait la diversité, là. Et c'est vrai dans l'Église, on vient avec notre personnalité, avec notre histoire. Il y a la diversité dans l'Église. Dans le temple, chaque pierre avait sa place. Dans la construction, était unie aux autres pierres. Et pour parler de cette mise en place de ces pierres, quand Paul utilise, si tu peux remettre le verset du chapitre 2, verset 19, le premier texte, tout au début, je n'ai peut-être pas mis après. Tu l'as ? Non ? Alors, c'est pas grave. Ici, Paul parle d'un édifice qui est bien coordonné. Oui. Et il invente un mot, là, avec trois mots grecs, en fait. Et c'est intéressant parce que Paul le fait et donne ce mot, on ne le trouve que deux fois dans le Nouveau Testament et deux fois dans l'Épître aux Éphésiens, puisqu'il l'utilisera aussi pour parler au chapitre 4 de ces chrétiens qui aussi, là, sont bien coordonnés. Ah, on retrouve le texte. Voilà cette phrase, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Pierre invente un mot, je ne vais pas rentrer dans le détail du mot qu'il invente, mais un mot dans lequel il associe trois mots en fait. Un qu'on peut traduire avec ou ensemble, l'autre par assembler et le troisième par collecter ou choisir. C'est comme si, alors, ce qui est traduit par bien coordonné, ça pourrait être traduit être ensemble assemblé après avoir été collecté ou choisi. Parle de cette Église dans ce sens-là. Et il pense, bien sûr, au temple de Jérusalem. L'image qu'il a, quand il parle d'une habitation, il pense au temple de Jérusalem, il parle de sanctuaire à un moment donné. Et si on revient sur les photos qu'on a du temple, les restes, vous voyez, le temple de Jérusalem, tel qu'il avait été agrandi par Hérode, avec l'esplanade, donc là, vous êtes à la partie sud, hein, la partie occidentale, ici. Et donc, là, quand on parle du mur occidental, c'est ce qu'on appelle le mur des Lamentations, c'est un peu plus loin, là, sur la gauche. Et donc, si tu mets l'autre, là, il y a une maquette de Jérusalem du temps au premier siècle, hein, du temps de Jésus, et vous avez là le sud de Jérusalem, donc les maisons qu'il pouvait y avoir dans cette partie-là, avec, vous avez l'esplanade du temple, et vous voyez le temple tout en haut, là au milieu, et donc vous avez ces murs magnifiques de l'esplanade du temple, qui avaient été taillés spécialement pour... Et on voit aujourd'hui dans les restes que nous avons, le genre de pierre que c'était. Donc voilà, vous avez les pierres d'angle, par exemple. Certaines de ces pierres peuvent faire 60-80 tonnes. Hein. Imaginez, 3 mètres sur 6 mètres ou 10 mètres. Là, vous avez voilà, un modèle des pierres d'angle, là aussi, dans un soubassement, une des plus grandes qui existe, qui doit faire 150 tonnes, je crois. Donc vous voyez un peu... le travail qu'il fallait faire pour tailler, mais la particularité, c'est qu'elles étaient posées les unes sur les autres. Il n'y avait pas de mortier, il n'y avait pas de ciment. On les posait les unes sur les autres, et voilà ce que ça donne. Et Paul pensait à ça. Quand il pensait à l'Église, il pensait à ça. Il pensait à chaque chrétien qui est unique, taillé, façonné, placé dans cette habitation de Dieu, en fait. Tellement bien taillé qu'on n'a pas besoin de mortier, pas besoin de ciment, pour être unis les uns aux autres. Et comment ne pas terminer ce troisième point avec le psaume qui parle le mieux de l'unité, le psaume de David, 133, j'ai cru l'entendre. Le psaume des montées, c'est le psaume que les pèlerins chantaient en montant Jérusalem à l'occasion des fêtes. De David, voici qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ouais. C'est aussi pour ça qu'il faut être unis. Parce que c'est là que se trouve la bénédiction, la vie et l'éternité. D'abord, on peut dire que quand on est unis, c'est plutôt agréable. Vous préférez une maison en paix ou une maison en guerre? On a les mêmes goûts. Vous préférez une église en paix ou une église en guerre? On a les mêmes goûts. Bien évidemment, on se sent tellement mieux, c'est tellement agréable, c'est ce que David dit. Oh, qu'il est agréable. Quand on va dans un lieu de paix, vous avez vu ces images qu'on a eues cette semaine encore, de Gaza par exemple. L'Église est le temple, je n'ai pas le temps de parler parce que Paul parle de l'unité qui repose, bien sûr, lorsque le temple repose sur les bonnes fondations. L'unité, elle ne se fait pas parce qu'on parle comme ça d'unité. Non, non, il faut regarder les fondations sur lesquelles on est posé. Et les fondations, c'est celles des prophètes et des apôtres, Paul nous dit. Donc, déjà, assurons-nous d'être sur les mêmes fondations pour parler d'unité. Je n'ai pas le temps d'aller dans cette voie-là, mais il y aurait certainement des choses à dire. On va conclure en disant un mot sur le prix de cette unité que nous vivons là, dans laquelle que nous bénéficions, que nous aimons, que nous chérissons. Mais cette unité a eu un prix. Et Paul en parle au chapitre 2, toujours au chapitre 2, mais un peu avant le texte qu'on a pris. Et il dit, car c'est lui, parle de Christ, qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un. Alors quand il parle des deux qui sont un peu plus haut, il parle des juifs et des non-juifs. En détruisant le mur de séparation, l'hostilité qu'il y avait entre ces deux catégories de personnes. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il a tué l'hostilité. L'inimitié, la haine, la détestation. Ce sont des mots terribles, ça, qui font partie malheureusement de notre vocabulaire, qui n'auraient jamais dû en faire partie, notre vocabulaire. C'est des mots qui ont dû être inventés parce que la réalité est là, mais qui n'étaient pas là au départ. Et quand je parlais des images de Gaza cette semaine, quand on parle des attaques terroristes, encore celles qui ont eu lieu récemment. Dans tout cela, il y a la même cause, c'est-à-dire la haine, l'hostilité, l'inimitié. Paul là parlait particulièrement de la haine, de l'hostilité entre les juifs et les non-juifs. L'hostilité, elle rend la paix impossible. Et on le voit bien avec le conflit israélo-palestinien. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Paul nous dit, il a détruit l'hostilité, il a tué l'hostilité. Il a mis à mort l'hostilité par sa mort. Vous allez dire, mais autour de sa mort, il y avait quand même beaucoup d'hostilité. Oui, effectivement. Il y avait beaucoup de gens hostiles, c'est pour ça qu'il a été crucifié, parce qu'il y avait des gens qui étaient hostiles, pleins de haine. Et cette haine, on l'entend, hein, quand on lit les récits de la crucifixion, avec tous ces moqueurs, avec ces brigands, alors il y en a un qui va changer en cours de route, mais les deux étaient hostiles à Jésus. Mais Paul nous dit pourtant, par sa mort, il a tué l'hostilité. Paul dit, ne dit pas que Jésus est devenu, il nous dit que Jésus est devenu hostilité, mais non pas hostile. Vous voyez aucun geste d'hostilité de la part de Jésus sur la croix. Au contraire, les gestes et les paroles de Jésus sur la croix sont des paroles de paix, de bienveillance. Il va dire ces mots, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'est pas des paroles d'hostilité, ça. Il va s'adresser à Jean et lui dire, il dira, « Tu vas prendre soin d'elle, hein, ma mère. » Il va s'adresser aux brigands qui se repentaient et dira « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est pas des paroles d'hostilité, ça, c'est des paroles de paix. Dans ce contexte d'hostilité aussi intense, Jésus va manifester la paix à ce moment-là. Ça rappelle ses paroles dans 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, Il l'a pour nous identifié au péché afin que par lui nous devenions justice de Dieu. C'est des paroles capitales, ça. Parce que c'est ce qui nous aide à comprendre ce qu'est le salut, en fait. Parce que Paul ne dit pas celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu pécheur. Le pécheur, c'est celui qui a commis le péché. Nous, nous sommes pécheurs parce qu'on a commis des péchés. Jésus, lui, n'a jamais commis de péché, donc il ne peut pas être pécheur. C'est pour ça que Paul fait une nuance, une différence. Il dit non, il a fait devenir péché. C'est-à-dire qu'il a été traité comme s'il avait péché, alors qu'il n'avait pas péché. Il a été puni comme s'il avait transgressé la loi. Le moment où il a pris notre place, il a été traité comme s'il avait péché, comme s'il avait commis toutes ses erreurs. Toutes ses erreurs à travers l'histoire. Ces meurtres, ces génocides, ces guerres, ces viols, ces mensonges, ces vols, ces convoitises, ces violences, ce racisme. L'hostilité en amour. L'hostilité entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Et l'hostilité entre les hommes eux-mêmes. Il a été traité comme s'il avait été hostile à son Père. C'est pour ça qu'il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été traité comme s'il avait été hostile aux autres. Voir ce que Jésus a connu pour nous comme humiliation et condamnation, dans le but de détruire ou de tuer l'hostilité dans nos cœurs, c'est par là qu'il nous donne la paix. Et parce que nous avons la paix, nous pouvons devenir des artisans de paix. Vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on a l'hostilité dans le cœur, on va donner l'hostilité. On ne peut donner que ce qu'on a. En revanche, si on a la paix, on va produire la paix. Nous allons être des artisans de paix autour de nous. Les gens avec un cœur hostile vont toujours produire l'hostilité. Et quand vous voyez, vous entendez ces gens qui parlent des autres, vous dites la paix est très très loin là. Quand on entend parler des autres avec de telles insultes, avec de tels propos, la paix est très très loin, elle n'est pas près d'arriver. Paul dit, le salut que nous avons reçu, c'est l'œuvre de Christ lorsqu'il a tué l'hostilité. Afin d'être notre paix, de nous donner la paix et de pouvoir produire la paix et être des artisans de paix. C'est ça qui doit nous caractériser, frères et sœurs, dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Et croyez-moi, le monde en a besoin. Il en a plus que jamais besoin. C'est la chose dont il a le plus besoin. Alors si on peut faire ça, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on a été appelé et nous avons répondu à cet appel. Et nous allons partager dans quelques instants ce repas qui nous rappelle comment Jésus a tué l'hostilité une fois pour toutes. Afin que nous devenions des concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu et l'habitation, le temple de Dieu. Ensemble, être le temple. C'est pour cela que Jésus dira, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je n'ai qu'une envie, c'est d'être là au milieu d'eux et de me manifester. Nous croyons que Dieu va se manifester maintenant si nous sommes unis ensemble par celui qui a tué l'hostilité dans nos cœurs. On va prier ensemble. Seigneur, s'il y a en nous un reste d'hostilité ce matin, nous approchons de toi maintenant afin que tu puisses détruire totalement toute hostilité, Seigneur. Afin que nous soyons uniquement des artisans de paix autour de nous, Seigneur. C'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre nous, dans notre famille notamment, où il y a tellement d'hostilité, Seigneur. Et peut-être que nous avons eu des propos qui ont développer cette hostilité dans la famille. Alors nous te demandons, Seigneur, de nous donner ta paix ce matin afin que nous soyons des artisans de paix dans notre famille. C'est peut-être sur notre lieu de travail que nous sommes dans un service, dans une entreprise où il y a tellement d'hostilité, Seigneur. Et nous aussi, nous avons été atteints par cette hostilité et nous te prions ce matin que tu puisses tuer en nous cette hostilité, toi qui l'as tuée à la croix, une fois pour toutes, afin que dans notre entreprise, nous soyons des artisans de paix, par nos paroles, par nos attitudes. Que partout où nous sommes, Seigneur, nous puissions être ces artisans. Donne-nous, Seigneur, encore de te ressembler de plus en plus. Et d'être au milieu de nous, Seigneur, cette habitation, ce temple, dans lequel tu aimes résider, tu aimes te trouver, parce que ce que tu trouves te ressemble énormément, Seigneur. Tu y trouves la paix qui est la tienne, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais maintenant dans nos cœurs, alors que nous allons partager ce repas de Sainte-Cène maintenant, pour nous rappeler comment tu as tué l'hostilité. Amen, Seigneur. Amen.
Voilà, je vais inviter les personnes qui vont distribuer le repas à s'approcher maintenant. Merci.